Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, malheureux Joseph Ignace Guillotin, c'est le titre que l'on pourrait donner à cette émission Parcours. Médecin philanthrope, incompris et mal connu, on lui attribua à tort la guillotine. Il tenta de réformer les études médicales, de réorganiser les hôpitaux. Il eut à se battre contre le clergé pour faire admettre la vaccination contre la variole. Auteur oublié, il fut à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Douce ironie pour celui à qui on attribua par ailleurs la guillotine. Et tenta de créer l'ancêtre de l'Académie de médecine, académie qui verra le jour au final sous l'égide de son rival Antoine Portal. Pour en parler avec nous, Jacques Batin. Jacques Batin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, professeur émérite de pédiatrie et génétique médicale à l'Université Victor Segalen Bordeaux 2. Vous êtes membre de la Société internationale d'histoire de la médecine et également docteur ès lettres de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Vous êtes l'auteur de « Médecins et malades célèbres » paru aux éditions Glyph en 2009, ouvrage dans lequel on retrouve la biographie de grands médecins du 18e, 19e et 20e siècle. Alors vous l'expliquez très bien dans votre livre, associer le nom de Guillotin à la machine à décapiter fut une erreur. Cette machine existant déjà bien avant le 18e siècle, vous allez nous raconter comment son nom a été porté à l'échafaud si je puis dire. Alors est-ce que Guillotin fut un homme qui portait la poisse? Puisqu'on a l'impression que pratiquement toutes ces démarches humanistes sont parties à volo ou alors ont été oubliées, Jacques Batin.
Tout à fait, il n'a pas eu de chance. Véritablement, on peut se demander pourquoi. Pourquoi ? Peut-être son aspect extérieur, d'après les témoignages de l'époque, d'après le portrait du musée Carnavalet, il avait un aspect un peu d'ancien régime. Il s'était pas mis à la mode du jour. Il paraît qu'il parlait assez mal. Il a été un très bon secrétaire, il écrivait bien, mais il parlait mal. Et il a été moqué par la presse qui déjà faisait ou défaisait les réputations. Et d'ailleurs, Marie-Antoinette en a su quelque chose. Elle en a carrément perdu la tête.
Alors justement, nous allons y venir. Reprenons les choses depuis leur commencement. Au départ, Joseph Ignace Guillotin était voué aux ordres.
Il est originaire d'une famille de magistrats de la Saintonge. Il est venu à Bordeaux où il a fait ses études. Il a passé son baccalauréat. Il a failli en effet être tonsuré à la cathédrale Saint-André. Et les religieux voulaient évidemment qu'il reste dans les ordres. Et là, il s'est échappé, il est parti à Reims, il a commencé à étudier la médecine, et puis ça ne lui a pas suffi, il est monté à Paris, et il a dû recommencer toutes ses études, mais comme déjà il avait un certain bagage, il a été boursier, c'est quand même intéressant. À l'époque, il a été boursier, il est allé très vite, il a été nommé docteur régent, où il enseignait l'anatomie, la physiologie, et il s'est installé. Il s'est installé à Paris, vous allez voir, ça a une certaine importance pour sa renommée. Et il s'est installé, il avait une très grosse clientèle et il partageait avec son confrère Jean-Paul Marat, l'ami du peuple de sinistre réputation, il se partageait la clientèle des maisons des frères de Louis XVI, le comte d'Artois et le comte de Provence, quand même original. Et lorsque les prémices de la Révolution sont arrivées, 1788, il a eu l'idée tout à fait géniale de faire la première pétition des citoyens de Paris, des corporations. Et il avait déjà beaucoup d'entre-gens parce qu'il avait une énorme clientèle. Et donc, il a rassemblé les témoignages pour demander au pouvoir que le tiers-État ait autant de voix que
Parlement.
Les deux ordres, oui, aux États généraux, que les deux autres ordres, à savoir le clergé et la noblesse, qui étaient seulement de 200 000 voix, par rapport aux 20 à 22 millions du tiers-État. C'est quand même très disproportionné.
Il a eu très tôt cette notion d'égalité.
Ou de représentativité. De représentativité. Et avec son ami Bailly, qui a été le futur maire de Paris, mais qui a été, lui, malheureusement, guillotiné, ils ont fait un préalable de cette pétition des citoyens de Paris avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est tombée véritablement dans le domaine public. Et personne ne sait plus qui en est le ou les rédacteurs. Mais c'est quand même un titre de gloire qui lui revient.
Venons-en à cette histoire de guillotine. Malheureuse guillotine qui porte par défaut le nom de Joseph-Ignace Guillotin. Comment cette machine, qui existait déjà bien avant Guillotin, a trouvé ce nom de guillotine ?
Alors, Guillotin, je viens de vous dire qu'il avait de l'aura, il y avait une clientèle, donc c'est ce qui permet souvent à des médecins qui ont une grande renommée locale de devenir des maires, des députés chez eux. Eh bien, ça a été pareil. Il n'a eu aucune difficulté pour être élu député, député de Paris. Et à ce moment-là, il a été secrétaire de la Constituante. Et à plusieurs reprises, il a demandé un supplice égal pour tous. Parce que jusque-là, il y avait des disparités. Il y avait les nobles qui étaient décapités à l'épée. D'autres étaient pendus. Les régicides étaient écartelés, comme Damien qui avait failli tuer Louis XV, etc. Et il a demandé un supplice égal pour tous. Ça partait de cette égalité des droits. Et à ce moment-là, il fallait trouver une machine. Et la machine, comme vous venez de le dire, elle existait dans les autres pays depuis longtemps. Alors il a fallu affûter la lame. On a demandé à Antoine Louis, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, de bien vouloir étudier la chose. Donc il y a eu des essais préparatoires sur des moutons à Bicêtre. Ça a failli être appelé la Louisette à cause de ça. À cause de Mirabeau, la machine a failli s'appeler la Mirabelle. Et finalement, c'est le nom de Guillotin qui a été retenu parce que c'est lui qui avait fait des couplets. D'ailleurs, un couplet assez maladroit. Il a dit « Le couperet tombe, sans gic, ça y est, la mort est immédiate, sans
avec
douleur. »
Avec ma machine.
Ouais, il voulait, oui. C'est comme s'il se l'était approprié. Et donc, ça a été pris par l'opinion, par la presse, comme si c'était sa machine. Mais c'est évidemment tout à fait un abus de langage. Il en a été extrêmement malheureux. Ça l'a poursuivi toute sa vie, parce qu'il a vu les exactions, évidemment, dues à la machine. Il a vu tous les morts, tous les amis qui disparaissaient. Et puis en plus, cette machine, comme toujours, a été tournée en dérision. Alors il y avait des bibelots qui reproduisaient la guillotine. Donc tout lui rappelait, n'est-ce pas, son nom et sa responsabilité indirecte, puisqu'il avait demandé un supplice égal pour tous, qu'il n'y ait pas de douleur. Et puis on lui a attribué ce qui était évidemment pour lui la catastrophe suprême.
Comme vous le rappeliez, ironie du sort, plusieurs de ses amis ont été décapités par la machine qui, par défaut, donc portait son nom, notamment Lavoisier, Condorcet.
Lavoisier.
Est-ce que cette guillotine, après, par la suite, changea la vie de Joseph-Ignace Guillotin, par la suite ? Est-ce que ça l'a poursuivi ?
Ah, ça l'a poursuivi, certainement, toute sa vie. Ah oui, il ne peut pas en être autrement, bien sûr.
Alors, parmi les autres anecdotes, il propose par la suite des projets novateurs, notamment une assistance médicale aux plus démunis, la réorganisation des hôpitaux, appelée mouroir, en tout cas assimilée à des mouroirs, et la réforme des études médicales. Toujours dans ce sens de s'adresser aussi aux plus démunis, c'est-à-dire il travaillait notamment avec le comte de Provence, qui sera devenu un peu plus tard Louis XVIII, mais aussi l'idée de s'intéresser aux plus pauvres.
Il avait le sens du progrès, de l'entraide. Il ne faut pas oublier qu'il a été très tôt initié à la franc-maçonnerie, qu'il est très, très lié à Franklin et d'autres francs-maçons. C'était l'élite scientifique et littéraire de l'époque, dont beaucoup de membres de l'Académie des sciences. Et donc, il participait de cette philosophie du progrès et de la solidarité. Mais là encore, il a été très malheureux parce qu'il a été contré immédiatement par Talleyrand. Donc tout ce qu'il avait proposé concernant la réforme des études médicales et la réforme hospitalière, tout ça est resté lettre morte.
Et sera repris plus tard par l'élève de Lavoisier ?
Ouh, il a fallu attendre longtemps. Napoléon Ier a essayé d'améliorer, mais ça a été très très long. Vous savez, l'amélioration des hospices qui sont restés très, on peut dire, jusqu'à une époque presque contemporaine. Médiévaux. Il a fallu la réforme du temps plein, les lois de Robert Debré, pour transformer l'hôpital, qui était pour les pauvres auparavant.
Alors, est-ce que Joseph-Ignace Guillotin était en avance sur son temps ? Est-ce que finalement son malheur, c'est de ne pas avoir été trop en avance, trop visionnaire par rapport à son époque ?
Probablement, c'est ce qui se passe. Quand on est trop devancier, on est incompris, l'objet de sarcasme. Là où il a très bien réussi, c'est au sujet de la vaccine.
Au sujet nous allons justement y venir, la vaccine
tout à fait.
Là, contre la variole.
Là, il a été suivi. D'abord, il était au courant, très vite, par le duc Rochefoucauld-Liancourt, de ce progrès considérable qu'était la vaccination générienne, parce qu'auparavant, il n'y avait que l'inoculation, qui réussissait ou ne réussissait pas. Il ne faut pas oublier que Louis XV, malgré l'inoculation qui lui avait été faite, il est mort de la variole en 1774. Et donc, la découverte par Jenner de cette vaccination, qui est la première, par l'immunité croisée que donne la transmission de la vaccine, la maladie de la vache, le Copox, donc qui protège la variole, c'est arrivé très vite en France. Et il y a eu des difficultés. Parce que ça venait d'Angleterre. Ça avait été pareil, d'ailleurs, pour l'inoculation. Ça venait d'Angleterre, des Anglicans, donc...
Mal vécu par le clergé.
Le clergé, l'Anglican a vu ça d'un mauvais œil. Et puis, en plus, il fallait transmettre une humeur animale à l'homme. Donc, ça paraissait très suspect. C'est comme si ça contrariait, en quelque sorte, le projet du créateur. Donc, il y avait deux raisons majeures de ne pas être d'accord avec... cette vaccination. Et là, Guillotin a pris les choses en main. Il a été nommé président du comité national de la vaccine. Il a créé des comités régionaux. Il y en avait dans toute la France. Moi, j'ai trouvé les registres dans ma région, à la Société de médecine, entre autres. Et il y avait toujours des difficultés. Et il a saisi l'opportunité du sacre de Napoléon Ier, qui avait mobilisé, vous le savez, le pauvre pape Pie VII, qui l'a suivi dans toute... ses pérégrinations.
Il a profité de la visite de Pie VII pour pouvoir lui demander s'il avait l'accord.
Alors, il a demandé audience à Pie VII parce qu'auprès de Bonaparte, d'abord, ça n'avait pas bien marché, il n'avait pas été bien écouté, peut-être parce qu'il avait pas assez d'autorité, de charisme personnel. Et donc, il a demandé audience au pape Pie VII, qu'il a écouté, qui a écouté sa péroraison, sa démonstration de l'efficacité et de l'innocuité de la vaccination jennerienne. Et Pie VII, immédiatement, s'est engagé à demander au clergé et ensuite au bas clergé, comme on disait à l'époque, de recommander la vaccination jennerienne. Donc là, ça a été un succès.
Enfin, une réussite pour Guillotin, qui a donc permis cette vaccination gratuite.
Ah, tout à
pour
fait.
Tous.
On organisait en effet des vaccinations gratuites dans les hôpitaux, les dispensaires de l'époque. Et ça contribuait à commencer à diminuer la mortalité de ce redoutable fléau épidémique.
Venons-en en 1804, il souhaite reprendre, Guillotin donc souhaite reprendre les travaux de la Société royale de médecine. Et là aussi, alors, autre anecdote, il va trouver des embûches sur son chemin.
Tout à fait, oui. En effet, la Société royale de médecine qui avait été créée donc en 1776 à la suite de la mort en 1774 de Louis XV, avait été créée pour renseigner le gouvernement sur l'hygiène publique, les mesures à prendre, etc. Puisqu'il n'y avait pas à ce moment-là d'académie de médecine, car il faut le rappeler, Pierre Chirac, le médecin personnel de Louis XV, avait voulu créer une académie de médecine, comme il existait une académie de chirurgie, et c'est la faculté de médecine de Paris qui s'y était opposée, pour ne pas perdre un pouce de son pouvoir. Et donc, c'est cette Société royale de médecine qui a été, en quelque sorte, le prémisse de l'académie de médecine. Et donc, Guillotin, tout naturellement, a voulu recréer cette société. Il appelait l'Académie de médecine de Paris, hein, je crois. Elle n'était pas encore nationale. Et il avait réuni un grand nombre de ses confrères, des confrères de Paris et d'Île-de-France, parce qu'il était évident que faire des correspondants à l'époque aurait posé des problèmes vu les difficultés de circulation. Il n'y avait pas de TGV à cette époque-là. Et là encore, il a été contré. Il a été contré par le baron Portal, qui avait son idée en tête. Enfin, baron Portal, parce qu'il était anobli par Louis XVIII. Et c'est comme ça que, étant le médecin de Louis XVIII, très prisé par lui, il a obtenu la création de l'Académie de médecine. Et c'est passé sous le nez de Guillotin. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait lui rendre un juste hommage et mettre au moins son portrait, qui a été fait par Moreau le Jeune, qui était le maître en peinture de sa femme. Et donc, portrait qui est conservé au musée Carnavalet, le mettre au moins quelque part à l'Académie de médecine, parce que Portal est omniprésent en pied, en peinture, en buste. Et je trouve que ce serait la moindre des choses que Guillotin, tout de même, ait un petit coup de chapeau quand on passe dans la salle dite des pas perdus.
Joseph Ignace Guillotin vit jusqu'à 76 ans. Il décède, mais il n'est pas guillotiné.
Ah, pas du tout. Pas du tout, il est mort dans son lit.
Je pose la question puisqu'il peut y avoir une confusion.
Ah, pas du tout, pas du tout. Les gens pensent que comme On parle de guillotine, il a été guillotiné. Là encore, c'est une fausse conception de la réalité historique.
Je vous remercie Jacques Battin pour cet éclairage sur ce personnage, Joseph Ignace Guillotin, qui était quelque peu oublié pour tout ce qui était, on va dire, valorisant pour lui et tout ce qui, en fait, ne le mettait pas en valeur parce que parfois c'était faux, comme par exemple la guillotine. Ça, par contre, on s'en souvient. Donc, nous avons pu réhabiliter ainsi un peu ce personnage. Personnage que l'on retrouve dans votre ouvrage « Médecin et malade célèbre », un portrait qui figure parmi plein d'autres médecins. J'invite nos auditeurs à écouter l'émission au fil des pages où nous parlons.
Il y a même une ordonnance de Guillotin qui pratiquait la médecine douce, alternative comme nous disons maintenant.
Alors les auditeurs pourront effectivement retrouver cette ordonnance. Donc ouvrage dans lequel vous parlez, comme son nom l'indique, de médecin, mais également de malade. Et puis vous parlez également de la médecine orientale que nous évoquons également au cours de cette émission au fil des pages. Donc je redonne le titre « Médecin et malade célèbre » paru aux éditions Glyph en 2009 avec une préface d'Yves Pouliquen de l'Académie française. Merci et puis alors j'espère à bientôt pour peut-être une prochaine émission sur le rapport entre la médecine et la religion.
C'est le même éditeur.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Au revoir.